Je viens du monde de ce qu'on appelle la catalyse homogène, où depuis les années 60, les gens ont essayé de s'inspirer d'enzymes naturelles, où ils ont recréé ce que j'appelle une première sphère de coordination. La première sphère de coordination contient les atomes directement liés au métal, plus quelques atomes autour, donc on est, je dirais, dans un rayon de 2 à 3 angstroms au maximum. Et en contrôlant cette première sphère de coordination, les chimistes ont très très bien réussi à obtenir des inductions asymétriques, donc des mains gauches plutôt que des mains droites préférentiellement. Et ces travaux ont été initiés assez largement par Henri Kagan et Knowles et ces gens-là à la fin des années 60. Mais si on compare ce catalyseur homogène énantioselectif tout à fait prototypique avec une enzyme naturelle qui est le cytochrome P450, avec le substrat ici lié en jaune, donc ça c'est le camphre qui va se faire hydroxyler à cette position-là, ce qu'on constate c'est que ce que j'appelle la seconde sphère de coordination, donc toute la protéine qui n'est pas directement liée au site actif qui est le métal, le fer en l'occurrence, eh bien il y a un contrôle beaucoup plus précis et détaillé de la seconde sphère de coordination, et c'est peut-être ce qui confère aux métalloenzymes ces propriétés d'activité et de sélectivité qui sont difficiles à avoir avec des systèmes où seule la première sphère de coordination est bien définie. Où j'aimerais attirer votre attention sur cette cytochrome P450, c'est que la première sphère de coordination est un porphyrine qui est achiral, et c'est la seconde sphère de coordination qui donne ces éléments de chiralité qui viennent en fait des chaînes latérales des aminoacides qui font la protéine elle-même. Si on cherche maintenant à comparer les propriétés catalytiques de ce qu'on appelle les catalyseurs homogènes et les catalyseurs enzymatiques, eh bien, j'ai tendance à penser que ces deux systèmes sont tout à fait complémentaires. Dans un premier temps, il est très facile d'obtenir la main gauche et la main droite, donc les deux énantiomères d'un produit si on travaille avec un catalyseur homogène, puisque tout ce qu'il faut faire, c'est synthétiser l'image dans un miroir du ligand, ce qui est tout à fait aisé. Par contre, pour une enzyme, si l'enzyme produit une énantiomère, disons R d'un produit, on ne peut pas ou on peut que très difficilement synthétiser l'image dans un miroir de cette enzyme, puisqu'il faut synthétiser manuellement avec les aminoacides D. Et par conséquent, il est difficile d'accéder à l'autre énantiomère d'un produit produit par une enzyme. En ce qui concerne la tolérance par rapport aux solvants, les enzymes travaillent typiquement dans des solutions aqueuses, alors que les catalyseurs homogènes travaillent dans des solvants organiques. Et il y a en fait relativement peu de catalyses homogènes énantiosélectives qui travaillent en solution aqueuse, bien qu'il y ait des efforts dans ces dernières années. Un bon catalyseur homogène a un broad substrate scope, en français on va appeler ça une palette de substrats. Donc, il va être capable de dérivatiser de nombreux substrats, qu'ils soient grands ou petits. Par contre, une enzyme, typiquement, ne pourra dérivatiser qu'un seul substrat en présence d'autres substrats très similaires. Mais c'est ce qui fait, d'autre part, la force des enzymes, puisqu'il n'y a pas besoin de protéger les 4 hydroxyles d'un sucre pour attaquer sélectivement le 5e hydroxyle, ce qui est un problème majeur en catalyse homogène. En matière d'optimisation, les catalyseurs homogènes sont typiquement optimisés par des moyens chimiques, donc on va prendre des substituants, on va mettre un isobutyl, tertiobutyl, phényl, etc., etc. Une des forces de la catalyse enzymatique, c'est la puissance de l'optimisation génétique où on peut introduire des mutations à l'un endroit ou à l'un autre par des moyens génétiques, ce qui est extrêmement puissant pour optimiser les performances du catalyseur. Les catalyseurs homogènes, typiquement, ont un nombre relativement limité de turnover. On est content quand on en a 1000. Pour une enzyme, eh bien, c'est vraiment le perpetuum mobile. Les meilleures enzymes ont vraiment des activités catalytiques avec des turnover, des nombres de turnover et des fréquences tout à fait remarquables. Ce que nous avons fait ces dernières 10 années, c'était combiner un catalyseur organométallique avec des propriétés catalytiques bien définies, avec une protéine qui formera le gant de baseball, en l'occurrence, qui permettra d'avoir des inductions asymétriques. Comme vous le savez, pour les chimistes, on a tout le tableau périodique à disposition, et par conséquent, on peut choisir des métaux, typiquement des métaux précieux, qui ont des propriétés catalytiques que les enzymes n'ont pas, ce qui nous permet de créer des réactions avec ce qu'on appelle des métalloenzymes artificielles que l'on ne trouve pas dans la nature. Et c'est vraiment ce qu'on a fait ces 10 dernières années, c'est d'essayer de développer des réactions que la nature ne peut pas faire de par le fait que nous avons à disposition des métaux précieux que typiquement rhodium, iridium, que la nature n'a pas à sa disposition. La philosophie est donc la suivante, on prend un catalyseur organométallique à chiral qu'on va introduire dans une protéine et la première question qu'on a dû adresser, c'est comment est-ce qu'on va s'assurer de la localisation du catalyseur organométallique à l'intérieur de la protéine n'étant pas directement liée au complexe métallique. Elle ne fournit donc que ce qu'on appelle la seconde sphère de coordination avec aucun contact direct entre le catalyseur et la protéine. Comme Marc vous l'a montré il y a moins d'une heure de ça, il y a trois méthodes pour ancrer le catalyseur à l'intérieur de la protéine. La méthode que Di Stefano a développée dans les années 90, eh bien c'est un ancrage covalent où on prend une protéine avec une cystéine et on crée une liaison covalente entre cette cystéine et le ligand sur la protéine, tel que ce que Di Stefano a fait avec son cuivre phénantroline. Une autre approche qui a été développée principalement par Sheldon dans les années 90, eh bien c'est de prendre un métal qui possède un site de coordination libre et d'utiliser une cystéine, par exemple, pour se lier de manière, ce qu'on appelle dative en anglais, entre la l'histidine ou la cystéine et le métal qui possède un site de coordination libre. Et la méthode que nous avons poursuivie ces 10 dernières années a été inspirée par Whitesides, qui a publié ceci en 78, pardon, où on utilise on va appeler ça un inhibiteur, une biotine qui a une très très grande affinité non covalente pour une protéine qui s'appelle l'avidine. Et comme je vous le montre sur la diapositive suivante, le système est extrêmement simple. Le système biotine-avidine est communément appelé le velcro moléculaire par les biologistes parce que l'acide carboxylique présent sur la biotine n'a que très peu d'influence sur l'affinité de cette urée cyclique pour cette protéine tétraméique qui est l'avidine. L'interaction est principalement des ponts hydrogène entre cette urée et le site actif, et d'autre part, il y a 4 tryptophanes dans le site actif qui forment une poche hydrophobe capable d'accommoder cette biotine. On peut donc dérivatiser cet acide valérique par pratiquement n'importe quel composé, ça peut être un anticorps, ça peut être une nanoparticule radioactive, et ceci vous permet donc d'ancrer de manière supramoléculaire un objet quelconque de taille variable proche de l'avidine. Ceci a été développé dans les années 70 par Bayer et Wilczek, et réellement, si vous tapez Google biotine-avidine, vous avez en fait un nombre de hits qui déplace le million. C'est vraiment une méthode extrêmement largement utilisée en biologie moléculaire. Et notre approche a été d'utiliser cet acide valérique pour y accrocher un composé organométallique catalytiquement actif, de l'introduire dans l'avidine et de voir quelle est l'influence de cette seconde sphère de coordination de l'avidine sur la catalyse. Ayant travaillé très longtemps dans des systèmes rhodium-diphosphine, nous avons effectivement commencé par des systèmes de diphosphine qui possèdent une amine, et cette amine peut être soit liée directement à la biotine par une liaison amide sur l'acide valérique, ou alors, afin d'introduire ce qu'on appelle la diversité chimique, d'introduire un aminoacide comme espaceur, ce qui permet de changer la position du catalyseur organométallique dans le gant de baseball. Vous pouvez vous imaginer que si vous introduisez, par exemple, une glycine, la position du rhodium à l'intérieur de la protéine va être différente du fait si vous introduisez, par exemple, un bêta-alanine avec deux groupements CH2. Comme espaceur, on utilise typiquement des aminoacides achiro, soit alkyle, soit aryl. Et comme ligand, on utilise des diphosphines assez traditionnelles qu'on peut, par synthèse très très facile, ainsi synthétiser des petites, ce qu'on appelle des bibliothèques de composés organométalliques qui, comme on le sait, ce composé de rhodium-diphosphine à l'extérieur de la protéine va nous donner un produit d'hydrogénation racémique puisque la première sphère de coordination autour du rhodium est achirale. Évidemment, la biotine, elle, possède trois centres de chiralité, mais elle est en fait très très loin du rhodium et par conséquent n'influence pas sur la sélectivité. La question va être, lorsqu'on introduit ce composé organométallique dans une protéine qui se lie très très fortement à la biotine, va-t-on observer une accélération de la catalyse d'une part et d'autre part, allons-nous observer une induction asymétrique en synthétisant un produit chiral, est-ce qu'on va obtenir une énantiomère préférentiellement? En termes de diversité génétique, comme je vous l'ai dit, la biologie a développé des systèmes extrêmement puissants, la biologie moléculaire, qui permet de produire rapidement des protéines, de les purifier et d'y introduire de manière dirigée par mutagénèse l'un ou l'autre mutant, donc un site de mutation. Ceci est la structure de l'avidine, qui est une protéine tétramérique qui se lie donc à quatre biotines, on ne voit pas le quatrième. Et cette protéine est ce qu'on appelle en anglais un 8-stranded beta barrel, donc un tonneau, donc c'est des feuillets bêta qui forment un tonneau et qui s'agrègent en une protéine homotétramérique. Et chaque binding event, je m'excuse d'utiliser un peu d'anglais, a une constante d'affinité de 10 puissance 14, qui est vraiment extrêmement élevée, ce qui correspond à 25 kilocalories par mole à peu près à température ambiante pour chaque liaison de la biotine dans l'avidine ou la streptavidine. On a développé des méthodes assez pratiques pour produire la protéine. Il y a deux protéines qui sont très très similaires. Il y a l'avidine qui vient du blanc d'œuf qu'on peut isoler et qu'on produit dans une levure à raison de 330 mg par litre. Et la streptavidine qu'on produit dans Escherichia coli à raison de 230 mg par litre, ce qui fait chez nous qu'en une journée, on a un fermenteur de 20 litres, on produit typiquement plus de 4 grammes de cette protéine qui est très très facile à purifier. Les premières réactions que nous avons testées dans l'esprit de ce que Whiteside avait publié en 1978 étaient l'hydrogénation de déhydroaminoacides N protégés. Donc ça c'est lorsque vous hydrogénez cette alcène, vous obtenez l'alanine qui est protégée sur sa fonction amine, et en présence de 1 mole pour cent de rhodium, gardez en tête que la streptavidine est tétramérique, donc on a besoin en fait que de 0,25 mole pour cent de streptavidine, on ajoute un léger excès de site actif de la biotine pour s'assurer que tout le rhodium est effectivement lié, à 5 bars d'hydrogène, à une solution à pH 4, à température ambiante, on obtient quantitativement le produit de réduction, et en présence du ligand flexible qui forme un cycle à 8 qui est directement lié à la biotine, on a obtenu 94% d'excès énantiomérique en faveur de l'énantiomère R, de l'énantiomère non naturel. Ceci était la première étape. Vraiment, ça s'est passé beaucoup plus vite que ce que j'attendais. On a commencé en 2002 et après une année, on avait déjà des résultats assez encourageants. Et on a commencé à développer des systèmes pour optimiser en combinant des méthodes chimiques et des méthodes génétiques optimiser soit la sélectivité, soit l'activité, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, on peut d'une part utiliser le gène de la streptavidine et y introduire par mutagénèse dirigée un site de mutation, et on peut combiner cette diversité génétique avec la diversité chimique en introduisant entre la biotine symbolisée par ce 8 et notre ligand chélate lié au métal, un espaceur achiral, typiquement un aminoacide. Et ensuite de ça, on combine cette diversité chimique avec cette diversité génétique pour produire des métalloenzymes. Et une fois qu'on a obtenu un bon système, on va typiquement obtenir de l'information structurelle, soit par rayon X, soit par modeling. Et basé sur cette information qu'on a là, eh bien, on peut évoluer encore plus le système, avoir des systèmes catalytiques avec des propriétés assez remarquable. Ça, c'est la première étude qu'on a faite en combinant l'optimisation chimique et génétique. On a pris tout d'abord deux substrats. Le premier substrat que vous avez vu avant, où le reste IR est un hydrogène, ce qui donne donc l'alanine, ou alors un groupement phényl-là qui donne la phényl-alanine N-acétylée. Si on prend le premier système qu'on a identifié avec la streptavidine et ce catalyseur-là, ce qu'on constate, c'est que les deux substrats donnent une conversion quantitative et 93 et 80%, 94% d'Excellentium AX qui suggère que le site actif de la protéine n'a pas été optimisé pour reconnaître l'un ou l'autre des substrats. Une bonne enzyme, bonne entre guillemets, serait capable de reconnaître un substrat sélectivement et le transformer, laissant l'autre substrat intouché. En termes d'optimisation, on a combiné 18 ligands, donc soit des ligands qui forment un cycle à 8 lorsqu'ils sont liés au rhodium, ou un ligand qui forme un cycle à 6 lorsqu'il est lié au rhodium, et on a introduit soit des alkyles aminoacides, soit des aryles aminoacides comme espaceurs entre la biotine et le ligand. Et on a identifié par modeling moléculaire la position 112 de la streptavidine qui, dans le type sauvage, contient une sérine, et on a fait ce qu'on appelle de la mutagénèse de saturation, c'est-à-dire qu'on a introduit les 19 autres aminoacides naturels, donc alanine, cystéine, acide aspartique, acide glutamique. Et comme vous le voyez là, ce sont des falcons qui sont pleins de protéines. Ceci a été à peu près 6 mois de thèse d'un doctorant qui était à la base biologiste que j'ai engagé, qui a produit donc cette librairie de saturation, de mutagénèse de saturation, où on a donc 20 isoformes de la streptavidine qui ne contiennent qu'une mutation à la position 112 qu'on avait plus ou moins identifiée comme étant proche du catalyseur de rhodium avec ce ligand-là. Évidemment, lorsque vous introduisez un espaceur, eh bien, cette position 112 ne sera pas nécessairement proche puisque vous allez déplacer la position de la balle de baseball dans le gant. On a testé les deux substrats qui donnent, après réduction, l'alanine et la phénylalanine, et on les code par deux triangles. Un code vert pour un des triangles code pour l'énantiomère R, et l'intensité du vert code pour la conversion. Si vous avez un vert très intense, eh bien, c'est que vous avez un bon excès énantiomérique et une bonne conversion. Comme je vous l'ai montré, avec le ligand directement lié à la biotine, eh bien, les deux substrats alanine et phénylalanine précurseurs sont, en présence de la streptavidine, réduits avec 100% de conversion et plus de 90% d'excès énantiomérique. La question qu'on voulait adresser avec cette grande campagne de screen était: est-il possible d'inverser l'énantiosélectivité, c'est-à-dire passer de vert à rose, rose code pour sélectivité S? Et la réponse est oui. Vous constatez que lorsque vous introduisez un aminoacide aromatique substitué en méta, eh bien, on passe d'un vert relativement intense à un rose intense, ce qui suggère que la position du catalyseur maintenant est différente et que là, on obtient effectivement des sélectivités raisonnables en faveur de l'énantiomère S. Les meilleures sélectivités en faveur de l'énantiomère S sont obtenues avec, à la position 112, une histidine ou alors une lysine ou alors une arginine, ce qui suggère qu'une charge positive à la position 112 favorise la formation de l'énantiomère S pour les deux produits. L'autre question qu'on voulait adresser ici, c'est: est-il possible de dérivatiser l'un des substrats sélectivement en laissant l'autre substrat intouché? Et la réponse est oui. Vous voyez là, si vous avez une glycine comme espaceur avec le ligand qui forme un cycle à 6, eh bien vous avez conversion quantitative pour un substrat et l'autre substrat n'est pratiquement pas réduit du tout. Ce qui est intéressant de constater là, c'est que lorsque votre catalyseur est directement lié à la biotine, vous voyez que lorsqu'en position 112, vous introduisez des aminoacides qui peuvent potentiellement se lier au rhodium, typiquement cystéine, acide aspartique, histidine, méthionine, vous voyez qu'on n'a pas du tout de conversion, ce qui suggère éventuellement que le catalyseur se lie avec l'aminoacide à cette position-là, ce qui désactive le catalyseur. Évidemment, lorsque vous introduisez un spacer, la position du rhodium se déplace, et alors vous voyez que, par exemple, lorsque vous avez trois groupements méthylène entre l'amine et l'acide de l'espaceur, eh bien, la catalyse en présence de la cystéine est tout à fait rétablie. J'aurais tendance, sur la base de cet effort de criblage assez important, de suggérer qu'on combine les avantages de la catalyse homogène, c'est-à-dire on peut accéder aux deux énantiomères, aux avantages de la catalyse enzymatique, où un des deux substrats peut être dérivatisé sélectivement. D'autre part, un des grands phénomènes bien connus en catalyse enzymatique, c'est que les enzymes ont des cinétiques très particulières qu'on appelle Michaelis-Menten, ou des cinétiques de saturation, c'est-à-dire lorsqu'on augmente la concentration du substrat, la cinétique de la réaction augmente jusqu'à ce qu'on obtienne une saturation, ce qui vous permet de dériver deux constantes très importantes, c'est-à-dire la cinétique de la réaction et la constante d'inhibition de Michaelis. Et comme vous le constatez, ce genre de courbe qui atteint un plateau est tout à fait typique et diagnostique des enzymes naturelles. Et ce qu'on constate d'autre part, c'est que le catalyseur à l'extérieur de la protéine, lui aussi, suit une cinétique de saturation. Mais lorsqu'on introduit le catalyseur dans la protéine, eh bien, vous voyez que la cinétique de la réaction augmente. On a donc une influence non seulement sur la sélectivité par la protéine, mais aussi sur l'activité. La réaction se produit plus rapidement à l'intérieur de la protéine qu'à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'accélération par la protéine. Depuis 2003, on a regardé un nombre assez important de cycles catalytiques. Je vous ai mis un résumé ici. Et dans tous les cas, on obtient plus de 95% d'excellence homéique pour des substrats modèles. Et pour le reste de la présentation, j'aimerais me focaliser principalement sur cette réaction-là, qui est une réaction de transfert hydrogénant, où une cétone ou une imine prochirale est réduite par un composé tabouret de piano, où et l'hydrure et le proton acide sont délivrés de manière concertée par un état de transition cycle à 6 sur le substrat prochiral. Toutes les réactions qui sont montrées ici ont une chose en commun dans l'état de transition, c'est que un des deux réactifs, ça peut être le nucléophile, ça peut être le substrat, n'est pas lié directement au métal dans l'état de transition. Et nous avons donc spéculé que de tels états de transition pourraient être assez idéaux dans des métalloenzymes artificielles, puisque peut-être la protéine protégera l'attaque du nucléophile sur ce carbone plutôt que sur celui-là, ce qui nous permettra d'obtenir des excellences homéiques assez importants. Et je vais vous montrer que ceci a été confirmé par des structures au rayon X. Inspirés par les travaux de Noyori, nous avons donc synthétisé des tabourets de piano qui possèdent un ligand aminosulfonamide lié à la biotine. Et comme vous le voyez là, comme on a un groupement aryl là, on a synthétisé la biotine en position ortho-méta-para de cet aminosulfonamide. Et on a combiné ces ligands biotinylés avec des catalyseurs de métaux précieux, ruthénium à l'état d'oxydation 2 ou alors iridium ou rhodium à l'état d'oxydation 3. Et on a varié en plus de ça le plateau du tabouret de piano, c'est-à-dire pour des composés de ruthénium, on a pris quelques groupements aromatiques différents, et pour le rhodium et l'iridium, on a pris du pentaméthylcyclopentadiényl. On a évidemment pris des ligands qui sont achiraux, puisqu'on voulait étudier l'influence de la seconde sphère de coordination. On a synthétisé donc ce ligand achiral dérivé des systèmes de Noyori qui possède deux centres de chiralité sur le groupement éthylène-diamine. Et on a combiné ces quelques composés organométalliques catalyseurs tabourets de piano avec les 20 protéines qu'on avait produites pour l'hydrogénation. Je vous montre maintenant un résumé des résultats. La première chose qu'on a constaté, c'est que seuls les ligands qui étaient liés en substitution para à la biotine marchaient. Lorsque le ligand sulfonamide n'était pas en para par rapport à la biotine, on n'obtient aucune catalyse qui suggère que le métal se trouve dans une poche où le substrat ne peut pas accéder. Ce qui est intéressant dans ce tableau-là, où on classifie en fonction des précurseurs organométalliques, c'est que le catalyseur ruthénium 2 paracimène, symbolisé en turquoise, donne des bonnes sélectivités en faveur de l'enantiomère R, alors que le même catalyseur où on a substitué le cimène par un benzène donne, symbolisé par ces barres vertes, une préférence pour l'énantiomère S. Ça suggère que l'optimisation chimique est très puissante puisque, en substituant un cimène pour un benzène, on peut inverser la sélectivité pour une même protéine. Si on classifie maintenant en fonction du substituant la position 112, on constate que la tyrosine à position 112, la phénylalanine ou l'alanine favorisent l'énantiomère R, alors que des substituants cationiques arginine et lysine favorise l'énantiomère S. Si maintenant on combine un cimène Sur le ruthénium, avec une tyrosine, on obtiendra 95% d'excellence numérique. Et si on substitue, on prend un benzène sur le ruthénium en présence de l'arginine ou de la lysine, eh bien on obtiendra 80% en faveur de l'autre énantiomère. En collaboration avec Ron Steenkamp à l'université de Seattle, on a obtenu une structure où on constate à la position 112 la présence de la lysine qui favorise l'énantiomère S et du benzène sur le ruthénium qui lui aussi favorise l'énantiomère S. Donc ce catalyseur-là donne typiquement 80% d'excès énantiomérique dans la réduction de l'acétophénone en faveur de l'énantiomère S. Ce qu'on constate ici, c'est que le ruthénium est chiral sur le métal, puisque si on considère ceci comme un tétraèdre, eh bien, il y a un substituant benzène, un chlore, une sulfonamide et une amine. Par conséquent, lorsqu'on a synthétisé ce catalyseur, on l'a synthétisé sous forme racémique, mais seule une énantiomère est reconnue par la protéine. Le système étant configurationnellement labile au ruthénium, eh bien, puisque l'autre énantiomère ne peut pas rentrer, lorsque le chlore se dissocie, on peut racémiser sur le ruthénium, et par conséquent, au final, malgré le fait qu'on utilise un catalyseur racémique au départ, seule une énantiomère est prise et reconnue par, la streptavidine. Vous constatez ici la biotine dans son site actif, le groupement valérique, le carboxylate transformé en amide et la substitution para de l'aromatique sulfonamide. Par des modélisations très très primitives, on avait identifié la position 112 comme étant très très proche du catalyseur. Et ce qu'on constate là, c'est qu'il y a deux positions supplémentaires qui sont très proches. C'est la position 121 qui, dans le type sauvage, possède une lysine. Et on va beaucoup utiliser cette position-là dans le futur. Et en position 124, il y a une leucine qui, elle, est très très proche de du groupement SO2 de l'aromatique. Et dans une seconde phase, on a donc produit des mutants qui possèdent une mutation à cette position-là ainsi qu'à cette position-là. Évidemment, si vous faites 20 fois 20, vous arrivez à 400 mutants et il n'est pas possible pour nous à ce stade de produire ces 400 mutants, donc on doit faire des choix rationnels sur quel mutant produire. La seconde réaction qui est catalysée par ces tabourets de piano développés par Noyori est pas seulement la réduction de cétone, mais aussi la réduction d'imine cyclique. Et ce qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est de constater que pour un catalyseur de Noyori avec un ligand énantiopur, on constate que si l'alcool est produit majoritairement sous sa forme S, eh bien l'amine va être produite majoritairement sous sa forme R, ce qui suggère que l'état de transition qui est largement accepté par la communauté scientifique valable pour la réduction de cétone ne peut pas être valable pour la réduction d'imine puisqu'on devrait obtenir la même énantiomère. Fort de ce constat, nous avons décidé de cribler nos catalyseurs biotinylés non seulement pour la réduction de cétone, mais aussi pour la réduction d'imine. Et nous avons obtenu de très bons résultats avec le mutant S112 alanine pour la réduction de ce substrat qui donne la salsolidine, qui est un alcaloïde naturel. On obtient 96% d'excès énantiomérique avec le mutant S112A en présence du composé d'iridium, qui est beaucoup plus stable que le composé de ruthénium. Et lorsqu'on introduit une lysine à la position 112, on obtient l'autre énantiomère, soit l'énantiomère S, avec 72% d'excès énantiomérique, avec ce même composé d'iridium aminosulfonamide, avec la substitution en para sur l'aromatique espaceur. Intéressant maintenant de savoir, c'est si on prend ce catalyseur d'iridium et qu'on teste la réduction de cétone avec ces deux mutants, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, vous constatez que la réduction de cétone procède avec le même énantiomère, c'est-à-dire que les deux états de transition, selon toute vraisemblance, sont les mêmes pour la réduction de cétone et la réduction d'imine. Ce qui suggère là que la protéine a vraiment une influence majeure sur à quoi ressemble l'état de transition. Nous avons réussi à obtenir une structure au rayon X où on constate que dans le site actif de la streptavidine, le catalyseur est vraiment très très bien localisé. Pour votre information, il y a le deuxième site actif de la biotine se trouve ici, mais on peut placer un deuxième catalyseur d'iridium que j'ai enlevé pour la clarté. Et ce qu'on constate, c'est que cette position S112A alanine permet au catalyseur d'être bien placé là. Et on constate la lysine 121 qui est vraiment relativement proche du site actif du ruthénium. Et en collaboration avec Jean-Didier Maréchal, qui est actuellement à Barcelone, on a identifié l'état de transition qui démontre pourquoi est-ce qu'on obtient les mêmes énantiomères pour la réduction de cétone et la réduction d'imine. Dans la dernière partie de cette présentation, j'aimerais vous montrer ce qu'on essaye de faire dans l'esprit de ce que Marc a montré ce matin dans la deuxième partie de sa présentation. C'est-à-dire, nous aimerions pouvoir faire de la catalyse in vivo, d'utiliser la machinerie cellulaire pour produire un produit que nous pourrons, grâce à nos catalyseurs, dérivatiser pour en faire quelque chose. Ça peut être des problèmes liés à l'énergie ou d'autres problèmes. Pour surmonter les challenges, nous avons identifié ces cinq points-là. D'une part, les composés organométalliques, typiquement de métaux précieux iridium, sont très très mous et par conséquent, ils ont la mauvaise habitude de se lier à tout iole présent dans la cellule. Et pour information, la glutathione dans les cellules mammifères est présente à raison de 1 à 5 millimolaires. Ce qui veut dire que si vous mettez un catalyseur organométallique dans une cellule, eh bien une bonne partie de votre catalyseur va être inhibée de par le fait qu'il va se lier à la glutathione ou à des cystéines de surface, ce qui va complètement inhiber la catalyse. Pour rappel, un autre problème des traitements cisplatine, par exemple, c'est que un bon pourcentage du cisplatine n'atteint jamais son target qui est l'ADN double brin, puisqu'il va se faire lier à tous les thiols qui traînent dans la cellule, ou alors il va se lier dans des sites actifs de protéines lipophiles telles les albumines, etc., etc. Donc ce problème-là est un problème majeur si on veut faire de la catalyse dans des organismes vivants. Il faut trouver un moyen de se débarrasser des thiols ou de faire en sorte que le catalyseur est protégé et ne peut pas réagir avec les thiols. Quand vous travaillez dans une cellule, les intermédiaires des chemins métaboliques sont présents à très très basse concentration. Et dans l'industrie chimique, on est habitué à travailler à des très fortes concentrations. Les catalyseurs ne sont pas optimisés pour travailler à des très hautes dilutions. Mais si on veut utiliser un intermédiaire présent dans la cellule, eh bien, on ne va pas pouvoir travailler à du 0,5 molaire parce que le substrat n'est jamais présent à ces concentrations-là. On aimerait bien avoir des systèmes catalytiques qui sont accélérés lorsqu'ils sont incorporés dans la protéine. Donc on a ce phénomène, ce qu'on appelle l'accélération de la catalyse par incorporation dans la protéine. On aimerait avoir des systèmes qui nous permettent de cribler à haut débit plutôt que de faire de l'HPLC comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et puis on aimerait avoir des systèmes catalytiques qui puissent complémenter des chemins métaboliques. Par exemple, si on regarde ce que Marc a présenté, vous aimeriez pouvoir utiliser le photosystème 1 pour produire de l'hydrogène. Et donc, si vous voulez faire ça dans une cellule, ce qui n'est pas ce qu'il a présenté, eh bien, vous devez vous assurer que votre complexe de cobalt diméthylglyoxime est compatible avec les milieux cellulaires. Et ceci sont des choses assez intéressantes et qui ont été, à mon avis, assez peu explorées récemment. Mais si vous voulez faire de la biologie synthétique avec des composés organométalliques, c'est un problème qu'il faut absolument adresser. Une des réactions qu'aucun organisme vivant n'est capable de faire, c'est la métathèse. Et nous nous sommes donc intéressés à développer des composés métalloenzymes artificiels capables de faire de la métathèse. On a pris les meilleurs catalyseurs connus à ce jour de Grubbs Oveida. Et évidemment, on a ancré sur le ligand le plus fortement lié au ruthénium, c'est-à-dire les carbènes d'Arduengo, on a ancré une biotine. Et en poursuivant cette approche-là, nous avons développé des systèmes qui sont non seulement actifs dans des ballons, mais en plus, ils sont totalement compatibles avec des extraits cellulaires. C'est-à-dire que si vous faites une culture cellulaire, typiquement dans E. coli, vous lisez la cellule par congélation et vous avez donc un mélange immonde de membranes, d'ADN et de protéines. Et si vous ajoutez simplement le catalyseur en présence de streptavidine, eh bien, on obtient 20 turnovers, ce qui est relativement respectable dans le monde de la métathèse en phase aqueuse, à pH physiologique et à des concentrations de substrat très très basses. Ceci nous permet donc, dans un avenir très très poche, de créer des bibliothèques de mutants de la streptavidine et ne pas avoir besoin de purifier cette protéine, simplement de lyser les extraits cellulaires et de cribler. La prochaine étape était de développer un substrat qui, après métathèse, deviendrait fluorescent, ce qui nous permettrait vraiment de cribler des grandes librairies. Et pour ce faire, on s'est focalisé sur des dérivés qui donnent lieu à des coumarines, puisque ces coumarines sont fluorescentes. Malheureusement, cette double liaison est très largement désactivée puisqu'elle est conjuguée avec un ester, et par conséquent, Avec ces substrats-là, on n'a que 1 à 2 turnovers par jour, ce qui est tout à fait inacceptable. Schmidt et Krehl ont publié l'année passée une approche extrêmement élégante où, plutôt que de prendre le précurseur de la coumarine, ils prennent un précurseur où l'oléfine n'est pas désactivée puisqu'elle n'est pas conjuguée avec un ester. Et lorsqu'on prend ce précurseur-là, on peut très facilement former le produit cyclique par métathèse. Et lorsqu'on ajoute du tertiaire butyl hydroperoxyde, le catalyseur de ruthénium est capable d'hydroxyler ou d'oxyder sélectivement cette position-là, ce qui nous permet maintenant, sur des extraits cellulaires, d'observer l'apparition de la fluorescence puisque le produit est créé. Ceci nous permet donc maintenant de cribler des bibliothèques de milliers, pour ne pas dire de millions de mutants de la streptavidine à la recherche d'un catalyseur qui est plus actif et qu'on pourra éventuellement introduire dans une cellule pour faire de la métastase in vivo. Ce qu'on a constaté dans nos travaux avec les tabourets de piano rhodium 3, iridium 3, c'est que ces systèmes-là sont beaucoup plus tolérants par rapport à la glutathione que tous les autres systèmes qu'on avait testés à ce jour. On a une quinzaine de catalyseurs à ce jour qu'on teste systématiquement avec des extraits cellulaires. Et on a donc décidé d'introduire l'encre biotine non sur un ligand lié au métal, mais sur le siège du tabouret de piano. La raison pour ceci est, d'une part, on va pouvoir augmenter la diversité chimique en testant une variété de ligands non biotinylés, en espérant que la présence de ce ligand non biotinylé accélère la catalyse. Et ce que j'aimerais présenter aujourd'hui, c'est le fait que, puisqu'on a identifié cette position 112 qui était proche du catalyseur, on s'est dit, si on introduit une histidine ou une cystéine à cette position-là, peut-être que la coordination de ce composé-là à cette chaîne latérale à la position 112 permettra d'activer notre catalyseur. Je vous montre un seul exemple là, qui est un exemple où on a une activation CH d'un aromatique et on obtient un produit cyclique avec un centre de chiralité là. La raison pour laquelle nous sommes intéressés à cette réaction en particulier, c'est que les composés connus pour favoriser cette réaction sont des composés de type tabouret de piano, mais comme je vais vous montrer dans la prochaine diapositive, on a impérativement besoin de 3 sites actifs pour que la réaction procède, et donc il est très difficile d'introduire de la chiralité dans ce système puisqu'il faudrait l'introduire sur le système CP. Un autre aspect très attractif dans cette catalyse-là, c'est que afin de déprotoner ce groupement CH, on a besoin d'un tampon acétate présent en haute concentration. Et nous avons spéculé qu'éventuellement, un aminoacide, une chaîne latérale aspartique ou glutamique acide, permettrait de se débarrasser du tampon acétate et permettrait une réaction qui serait donc très largement accélérée lorsque le catalyseur se trouve dans la protéine. Les résultats sont présentés ici. Donc, avec la protéine de type sauvage, on obtient 95% de conversion avec une induction asymétrique tout à fait modeste. On a testé à la position 112 soit l'acide aspartique, soit l'acide glutamique. Et vous voyez qu'on a d'une part pas d'accélération, mais d'autre part, on a une érosion de l'énoncio-sélectivité. Par contre, si on introduit une tyrosine à la position 112, on a toujours besoin du tampon acétate, mais on a une augmentation significative de l'excellentiomérique. Et lorsqu'on introduit maintenant un acide glutamique ou aspartique à la position 121, alors là, on a une accélération très, très prononcée de la cinétique de la réaction et on a un excellentiomérique raisonnable. Lorsqu'on combine la position 112 en introduisant une tyrosine avec l'acide glutamique à la position 121, on obtient 80% d'excellentiomérique pour le substrat ou le groupement R ici à un tertiaire butyl. Lorsqu'on augmente l'encombrement stérique sur le substrat de départ, on a introduit un adamantyle, on est à 95% d'excellence numérique. J'aimerais vous montrer maintenant les résultats de modélisation moléculaire. On constate que lorsque le composé tabouret de piano, donc rhodium, CP star, un groupement méthylène, puis la biotine, est introduit, il se trouve effectivement très très proche de la position 121. Vous voyez ici qu'on a introduit un aspartate, qui est tout à fait à même de se lier au métal, avec maintenant 2 sites de coordination libres pour se lier au substrat. La tyrosine ici est la position 121, qui forme une interaction pi-pi stacking avec le CP star du substrat. Le cycle mécanistique a été étudiée par Xia. Là, on parle de, en absence de la protéine, mais on spécule que le cycle catalytique est la même. Donc, on a l'amide se lie au rhodium. Le rhodium se trouve maintenant proche de cette liaison CH aromatique. En présence d'un acide lié au rhodium, cet acide va pouvoir déprotoner. On forme le métallacycle. L'acide étant protoné n'est plus lié au rhodium. Puis vient le substrat, le deuxième supra qui est l'alcène. On obtient une insertion, puis une élimination réductive pour recracher le produit énantiomériquement enrichi et régénérer le catalyseur. On a fait de la cinétique isotopique et on constate que l'accélération du composé protoné versus composé deutéré est de facteur 15, qui est tout à fait remarquable. Et ça suggère donc que l'étape cinétiquement déterminante est cette étape-là, où c'est l'activation du groupement CH qui détermine la réaction. Comme je vous l'ai dit, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est exploiter des chemins métaboliques présents dans une cellule et se dire, ah ben tiens, par exemple, cet intermédiaire-là, on a un catalyseur hybride qui serait capable d'en faire un biofuel, une drogue, etc., etc. Ça, c'est une première approche. Et l'autre approche serait de faire une partie d'un cycle métabolique ne marche plus et on pourrait, à l'aide d'une métallenzyme artificielle, amener un substrat et complémenter des cycles métaboliques. Ceux-ci sont nos efforts principaux actuellement. Et comme je vous l'ai dit, un des graves problèmes dans les catalyseurs organométalliques en présence de protéines, c'est qu'il y a une inhibition mutuelle. Pareil, enfin, pour prendre un exemple assez classique, c'est que le cisplatine se lie aux albumines présentes dans le sang et par conséquent, on en perd une bonne quantité parce que le composé de platine ou le composé tabouret de piano se lie à un biocatalyseur hydrophobe de manière plus ou moins forte. Ce qu'on a démontré en l'occurrence là, c'est que le biocatalyseur est inhibé par le composé organométallique et le composé organométallique est lui aussi inhibé par des cystéines, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que si ce catalyseur organométallique possède un ancre ou une ancre biotine, même si le biocatalyseur est inhibé, si on rajoute de la streptavidine, on est capable de ressortir et de rétablir l'activité du biocatalyseur. Je vous montre maintenant quelles sont les réactions qu'on est en train d'étudier. Une monoamine oxydase est une enzyme qui est capable d'oxyder une amine, typiquement les S-amines, pour fournir les imines correspondantes. Et pour faire cette oxydation, elle utilise du dioxygène et produit de l'eau oxygénée. Comme je vous l'ai montré, on a des catalyseurs organométalliques qui sont capables de réduire les imines en amines. Et les bons catalyseurs produiront typiquement l'énantiomère S, mais avec des excès énantiomériques de 90%. Puisque la monoamine oxydase est capable de réoxyder sélectivement l'énantiomère S, avec un système combiné cascade de ce type-là, on devrait être capable de produire des énantiomères R avec des excès énantiomériques dépassant les 99%. Malheureusement, et comme je vous l'ai dit, le catalyseur d'iridium tabouret de piano est un inhibiteur pour la monoamine oxydase. Et si on ajoute la streptavidine, on peut rétablir l'activité catalytique. Malheureusement, puisque la monoamine oxydase produit de l'eau oxygénée détruit le catalyseur. Comment peut-on neutraliser l'eau oxygénée? Eh bien, on ajoute une troisième enzyme qui est une catalase. Et donc, on a une cascade qui contient une métallenzyme artificielle et deux enzymes naturelles. Et on obtient des dizaines de milliers de turnover avec pratiquement n'importe quelle imine prochirale, on obtient plus de 99% d'excès énantiomérique pour l'amine correspondante dans une cascade qui contient trois enzymes. On a été une étape plus loin de montrer qu'on peut combiner pas seulement trois, mais quatre enzymes, c'est-à-dire on prend une aminoacide oxydase qui oxyde l'amine de l'aminoacide en imine qui est hydrolysée en cétone. Si on prend la lysine, cette cétone va cycliser pour former l'imine cyclique. Et là encore, en présence de la streptavidine, on peut réduire avec des excès énantiomériques très modestes pour l'énantiomère R, mais puisque la monoamine oxydase réoxyde l'énantiomère S en imine, on peut obtenir des excès énantiomériques quasiment parfaits. Et là encore, il faut neutraliser l'eau oxygénée produite par la monoamine oxydase afin d'éviter que l'eau oxygénée s'attaque à l'iridium. Il me reste 5 minutes, j'aimerais vous montrer un projet que nous avons commencé très récemment qui est lié à ce qui s'appelle la promiscuité catalytique. Si on se projette dans le passé, on peut se poser la question comment est-ce qu'une activité catalytique apparaît à partir d'une protéine quelconque ? Et étant chimiste inorganicien, évidemment, une chose qui m'intéresse, c'est l'addition de métaux à une protéine. Et ces dernières années, et je pense que Stéphane Ménage vous en parlera un peu plus quand il viendra dans quelques semaines, on a identifié une classe de protéines qui possèdent un métal, c'est typiquement le fer ou le zinc, qui sont des oxydases ou des hydrolases. Et ce fer et ce zinc sont liés à deux histidines et un acide aspartique ou glutamique. On peut maintenant se poser la question, c'est est-ce qu'on peut trouver dans les bases de données des protéines qui posséderaient ces trois aminoacides préorganisés de manière à se lier à un métal. On a donc fait une étude de mining dans le PDB. On trouve dans le PDB 1685 entrées qui possèdent ce qu'on appelle un facial triad motif, c'est-à-dire un métal lié à deux histidines et un acide glutamique ou aspartique. Et évidemment, en plus de ces 1685 entrées, il y en a aussi beaucoup où la protéine a perdu son métal par addition d'EDTA, etc. Ce sont des apoprotéines qui possèdent un facial triad motif. On a donc fait un peu de sélection parmi ces entrées qu'on a trouvées où on a trouvé 1368 protéines qui sont des facial triad motifs, mais qui en vérité sont effectivement des métalloenzymes lorsqu'on ajoute un métal. Par contre, on a trouvé 25 protéines qui possèdent deux histidines et un acide glutamique ou aspartique, où il est très clairement établi que cette protéine ne se lie pas, n'a pas besoin de se lier au zinc ou au fer pour avoir une activité catalytique. La question qu'on essaye maintenant d'adresser, c'est qu'est-ce qui se passe si on purifie ces protéines et on y ajoute un métal ? Est-ce qu'on génère une activité catalytique complètement nouvelle ? La question qu'on peut se poser, c'est si, étant donné qu'il y a du cuivre et du fer présents dans les milieux cellulaires, on pourrait se poser la question, oui, mais si effectivement ça a une très très grande affinité pour ces métaux, pourquoi est-ce que le métal n'y est pas lié ? Eh bien, la manière de redresser à cette question, c'est de regarder les protéines qui ne possèdent pas un acide aspartique ou glutamique, mais un glutamine ou un asparagine qui, par une simple mutation, permettrait de créer un site où le métal pourrait se lier. Je vous montre ce que je veux dire. Donc ça, c'est un site actif avec un facial triad, deux histidines, un acide aspartique, le métal en coordination octaédrique. Si on regarde maintenant la protéine d'où vient ce facial triad, on voit que c'est principalement une alpha-hélice. Et dans notre mining du PDB, on a donc trouvé des systèmes qui possèdent deux histidines et un acide glutamique. En l'occurrence là, eh bien, il se trouve que ces trois résidus sont à la surface de la protéine. Ce n'est pas tellement ce qui nous intéresse. On cherche à avoir des systèmes qui ont ces trois aminoacides, pas à la surface, mais à l'intérieur d'une cavité hydrophobe. Et on en a identifié 25. Et j'aimerais vous en montrer quelques-uns. La structure au rayon X possède les résidus verts, donc deux histidines et un acide glutamique. Et en rotant simplement le long des liaisons des chaînes latérales, vous constatez qu'on peut aisément créer un site facial triad qui est localisé à l'intérieur d'une poche hydrophobe. Et comme je vous l'ai dit, on en a identifié 25, on en a actuellement exprimé 7 et on est actuellement en train de tester l'addition de divers métaux pour voir si on génère une nouvelle activité, soit d'hydrolase, soit d'oxydase. Ceci m'amène à la fin de ma présentation. Je viens du monde de la catalyse homogène, mais ayant été relativement peu efficace dans la création de catalyseurs organométalliques traditionnels, un beau jour, je me suis dit, ah ben tiens, si on utilisait des protéines pour créer des métallenzymes artificielles, et depuis ces 10 dernières années, on est en train de surfer à l'interface entre la catalyse homogène et enzymatique. Pour résumer, on se trouve dans un monde plus homogène de par le fait qu'on a aisément accès aux deux énantiomères des produits. On peut travailler principalement en solution aqueuse, mais pour certains systèmes et en collaboration avec l'industrie chimique, on peut travailler aussi en système biphasique ou en système purement organique. En termes de spécificité de substrat, on est typiquement avec des systèmes où on a les petits et les larges substrats qui sont reconnus, mais on peut aussi, comme je vous l'ai montré dans certains cas, avoir une spécificité très, très, très grande pour un substrat. On optimise de manière chimique et génétique, et on se dirige de plus en plus vers des optimisations génétiques puisqu'on veut travailler in vivo. Et en termes de vide catalyseur, donc nombre de turnover, les meilleurs résultats qu'on a obtenus, c'est 10 000 turnover, ce qui est encore très très loin des meilleurs systèmes enzymatiques, mais qui sont tout à fait respectables pour des systèmes homogènes. Ceci est une photo de mon groupe récente. On collabore avec évidemment pas mal de groupes, mais j'ai un cristallographe qui fait la structure au rayon X pour les protéines, j'ai un théoricien dans le groupe, j'ai quelques biologistes qui sont responsables de toute la partie biologie moléculaire, etc. Et pour le reste du groupe, c'est principalement des chimistes. Leur nom a été mentionné sur les diapositives, c'est le groupe actuel. J'aimerais remercier Nick Turner, Frank Holman, qui sont des gens qui font de la biotechnologie blanche, donc catalyse enzymatique, Tilman Schirmer, avec qui je collabore pour les protéines, Marcus Meuli et Jean-Didier Maréchal pour la théorie, Wolfgang Mayer, on fait des capsules in vivo, Sven Panke, un biologiste avec qui je collabore pour la métathèse, et Tom Rovis pour la dernière réaction que je vous ai montrée avec l'activation CH. Ceci m'amène à la fin et je vous remercie pour votre attention.